Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Nous prenons l'épître aux Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné, c'est-à-dire Jésus, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ, Jésus-Christ. Amen. Nous voyons dans le monde la difficulté aujourd'hui pour certaines personnes de trouver du travail lorsque leur expérience professionnelle n'a que pour base l'expérience professionnelle. Ceux qui n'ont pas de diplôme dans certains domaines ont des difficultés à trouver un emploi. Parce que dans le monde, on juge que le diplôme est le témoignage et le témoin qui atteste que l'emploi dans lequel tu veux t'engager, tu as eu les cours, tu as eu l'enseignement nécessaire qui te qualifie pour cela. Tu peux aujourd'hui aimer la médecine de tout ton cœur, avoir foi dans tout ce qui concerne la science, ce n'est pas pour autant que ça fera de toi un chirurgien. Tant que tu ne passes pas par l'école, tant que tu ne passes pas par les enseignements, eh bien, ça ne fera jamais de toi un chirurgien. Aujourd'hui, on peut voir que dans certains domaines, on peut se débrouiller. Je connais certaines personnes qui avaient appris la mécanique depuis leur pays d'origine. Ils avaient appris la mécanique sur le tas, uniquement dans la pratique. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans un pays occidental comme celui-ci, comme en France, et qu'en cherchant du travail, on leur a fait comprendre que ce n'était pas suffisant uniquement de connaître la pratique. Il fallait le diplôme qui atteste qu'il y a eu un enseignement derrière. Et bien qu'ils maîtrisaient certaines choses, mais un bien-aimé un jour a confessé, après avoir fait justement 2 années d'études dans la mécanique, il se dit finalement, je pensais que ce que j'avais appris dans mon pays, ce que je savais faire, je pensais que c'était suffisant. Mais je me rends compte que, après avoir passé 2 ans d'enseignement, que finalement je ne connaissais pas la mécanique si bien que ça. Donc on peut être dans une configuration où nous avons notre petite intelligence, la petite pratique que nous avons faite, qui nous aide à nous débrouiller, mais qui ne nous qualifie pas officiellement devant un employeur, dans un établissement. Et c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Il y a des gens qui aiment sincèrement Dieu. Il y a des gens qui ont la foi que Dieu est tout-puissant, mais qui ne sont pas enseignés. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de personnes courir de gauche à droite pour chercher des guérisons. Parce que dans leur esprit, dans leur intelligence, Jésus-Christ se trouve là où il y a beaucoup de manifestations. Là où les gens tombent, là où les gens crient. Alors lorsque on voit sur Internet ou qu'on apprenne par le bouche à oreille que là-bas il y a du mouvement, que ça bouge, beaucoup courent. Ils dépensent leur argent, ils paient des billets d'avion. Mais quand ils rentrent chez eux, ils demeurent dans le même état. Parce que selon eux, il suffit tout simplement de croire pour voir la manifestation de Dieu dans notre vie pour être transformé. La foi, le fait de croire, est le départ de la vie chrétienne avec le Seigneur. Mais sans l'enseignement, nous ne sommes rien. Sans l'enseignement, nous ne pouvons pas être qualifiés pour faire l'œuvre du Seigneur. Sans l'enseignement, ça ne fait pas de nous de véritables disciples de Jésus. L'enseignement contribue à nous construire, à faire de nous, comme l'apôtre le décrit là, des hommes faits, des hommes qui ont été formés, qui ont été modelés par le Seigneur et qui ont atteint la forme, l'objectif final voulu par Dieu pour entrer dans le service. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, que ton fils ou ta fille, qui a 12 ou 13 ans, 14 ans, et qui a déjà atteint l'âge adulte, 1m80, 1m85, que ça fait de lui un homme fait. L'âge qu'il a montre que l'éducation des parents n'est pas encore terminée. Le fait qu'il vive encore chez ses parents démontre qu'il n'est pas encore un homme fait pour se prendre en main. Ce n'est pas parce qu'il fait 1m80 que ça veut dire qu'il a connu tout de la vie. Il va connaître en fonction de l'enseignement que les parents lui donnent dans l'éducation. C'est cette éducation, cet enseignement que les parents vont semer qui va faire de lui un homme fait, un homme disposé à être utile dans la société, qui va être capable de réfléchir et qui va être capable de se prendre en main. Ce n'est pas parce qu'il a grandi rapidement que ça fait de lui un homme. Il est encore un enfant. Il ne connaît encore rien de la vie et l'enseignement que les parents lui donnent, lui transmettent à travers l'éducation, n'est pas terminé et par conséquent, l'œuvre que les parents doivent faire dans sa vie n'a pas abouti. Par conséquent, il n'est pas un homme fait. Mais beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils croient fermement au Seigneur, qu'il est apte à faire tout ce qu'il lit dans la Bible. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Dans le passage que nous lisons, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ a établi dans l'Église, dans le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Tous ceux qui ont véritablement foi au Seigneur, ce sont ceux-là qui constituent l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le corps du Christ. Et tel que nous sommes là, aujourd'hui à Rouen, convertis, ayant consacré nos vies au Seigneur, nous faisons partie de ce corps-là qui est le corps du Christ, qui est l'Église. L'Église universelle, c'est un terme qui n'est pas biblique, mais qui explique que c'est l'ensemble de tous les chrétiens et nous en sommes une partie qui constitue le corps du Christ. Maintenant, le Seigneur a cet objectif-là, de faire de nous des disciples, comme il l'a fait avec ses propres disciples en les formant pendant 3 ans. Et après ces 3 ans d'enseignement, il leur a dit « Allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples ». Et l'objectif que le Seigneur a atteint en 3 ans avec ses disciples à lui, c'est ce même objectif qu'il nous donne à nous qui sommes désormais dans le corps du Christ. Mais n'étant plus présent physiquement, le Seigneur donne maintenant des dons à certaines personnes que lui-même a choisies, que lui-même a qualifiées pour être maintenant le canal qu'il va utiliser pour enseigner les autres afin qu'ils grandissent et qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. Et la Bible nous dit que pour cela, le Seigneur a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Toutes ces personnes-là qui ont reçu le don du Seigneur pour enseigner, pour transmettre l'enseignement du Seigneur dans un objectif. Quel est cet objectif? Verset 13. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Pour le perfectionnement. Quand on veut perfectionner quelque chose, ça veut simplement dire que la chose n'a pas atteint sa maturité, que la chose n'a pas atteint la forme voulue, la forme définitive. Ça veut dire qu'il y a encore des manquements, ça veut dire qu'il y a encore des choses à corriger. Et cette correction, ce travail de perfectionner, se fait à travers les enseignements inspirés de Dieu qu'il donne à travers ses serviteurs pour nous rendre meilleurs, pour nous perfectionner et que tout le corps entier soit édifié. Et comme il le dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc l'objectif derrière cet enseignement, c'est de nous perfectionner, mais aussi de nous amener à une véritable unité. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a quelquefois du désordre dans ce que nous pouvons appeler Église ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des divisions dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'église locale? Il y a des divisions parce que les points de vue sont divers. Il y a des divisions parce que certains ne veulent pas se soumettre au schéma du Seigneur. Ils se créent leur propre connaissance, ils se créent leur propre évangile, et cela emmène du désordre, parce que l'autre pense que c'est comme ça, l'autre pense que c'est différemment. Et personne finalement ne se soumet au schéma du Seigneur. C'est ce qui emmène des divisions, c'est ce qui emmène des querelles, c'est ce qui emmène des jalousies, c'est ce qui emmène le manque de respect les uns envers les autres, le refus d'accepter l'autorité, le refus d'accepter et de reconnaître le don que Dieu a mis dans les uns et dans les autres. Et la Bible nous dit que ces ministères qui ont été établis le sont pour nous enseigner afin que nous ayons une seule et même foi, que nous soyons dans l'unité véritable selon le Seigneur. Verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » La Bible nous rappelle que dans la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. L'apôtre le rappelle à Timothée. Jésus-Christ en parle aussi dans Matthieu 24. Il en parle aussi dans Matthieu 7. Que dans cette fin de temps, beaucoup de faux prophètes vont s'élever, si possible pour tenter de nous détourner de la vérité. Et cette réalité-là, eh bien, nous le vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne mettent plus pied dans les assemblées, parce qu'ils se sont fait avoir et qu'ils sont déçus et qu'ils sont déchirés au-dedans d'eux et qu'ils sont meurtris au-dedans d'eux. Ils n'ont plus du tout confiance en l'autorité, même celles qui sont véritablement de Dieu. Ils ont mis tout le monde dans le même sac et petit à petit, ils s'isolent. Mais en s'isolant, ils se privent de cette réalité-là que Dieu a établie pour lui. Des gens qui vont l'aider par l'enseignement à ne plus être faible devant les faux pasteurs, devant les faux docteurs. Voilà la réalité, c'est que l'enseignement a pour objectif de nous rendre capables de discerner qui est de Dieu et qui n'est pas du Seigneur. Tu peux croire au Seigneur de toute ta force, tu peux croire au Seigneur de tout ton cœur, mais si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas discerner qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Ce n'est pas un principe qui vient des hommes. C'est un principe qui a été instauré par le Seigneur. C'est le Seigneur qui dit qu'il l'a établi pour le corps du Christ. Donc se priver, se mettre de côté, en se disant que je peux m'enseigner seul, en se disant je connais assez, en se disant j'ai eu des révélations, bien-aimé, ne t'emmènera pas à l'objectif que le Seigneur veut pour toi, tel que c'est écrit dans Éphésiens 4, 11. Dieu a établi des ministères pour ton perfectionnement. Et te priver de ça, c'est te priver tout simplement de la grâce de Dieu. C'est te priver tout simplement des moyens que le Seigneur te donne pour te constituer comme des gardes du corps, la sécurité que représente la connaissance de la parole de Dieu qui va t'aider à discerner que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Que là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que j'ai lu dans les Écritures. Tu as besoin d'être enseigné. J'ai besoin d'être enseigné selon le modèle que le Seigneur a établi. Verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Voilà l'objectif du Seigneur. Il a établi des ministères pour nous enseigner. La foi que tu as, elle est très bonne. Mais la foi sans l'enseignement, ça ne te conduira pas très loin. Nous avons besoin de l'enseignement pour soutenir notre foi. Il y a dans les psaumes, dans le psaume 119, il y a des passages qui nous montrent que le psalmiste expliquait que lorsque je suis dans la détresse, lorsque je suis mal, c'est ta parole qui me redonne la vie. C'est la parole de Dieu qui redonne la vie. C'est l'enseignement de Dieu qui redonne la vie. Le Seigneur dit à ses disciples, en parlant du Saint-Esprit et le rôle que le Saint-Esprit aura quand il l'enverra, il dit le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit vous le rappellera. À quel moment le Saint-Esprit nous le rappellera? Le Seigneur a dit, on vous conduira devant les tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce que le Saint-Esprit vous communiquera à l'instant même ce que vous devez dire. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va te communiquer? Il ne peut pas te communiquer autre chose que ce qui est lié à la parole de Dieu, que ce qui est lié aux enseignements que le Seigneur avait donnés. Le Saint-Esprit nous le rappellera. À quel moment? Au moment où tu es dans l'épreuve. Au moment où tu es affaibli, accablé par la maladie. C'est là où l'enseignement que tu as eu, par rapport aux épreuves, ça va remonter à la surface. Et ça va t'aider à traverser cette épreuve. Mais lorsque tu es dans la maladie et que tu as rejeté les enseignements du Seigneur, à ce moment-là, quand tu es dans la détresse, quelles sont les pensées qui vont traverser? Même si tu sais que Dieu existe, même si tu sais que Dieu est présent, mais tu n'as aucune promesse sur laquelle tu puisses t'appuyer. Tu n'as aucune connaissance qui peut te restaurer au moment où tu es dans le besoin. Parce que tu as méprisé l'enseignement. Tu as cru certainement que le peu que tu avais reçu il y a un mois, il y a un an, te suffit largement. Alors ta vie à toi, elle est basée uniquement sur la prière, sur l'intercession. La prière, c'est très bon. L'intercession, c'est très bon. Mais tout cela doit être soutenu par l'enseignement. C'est un tout, ça va ensemble. Les disciples qui acceptaient la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils se joignaient aux autres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Avoir le titre chrétien ne suffit pas. C'est le commencement de quelque chose. Mais l'aboutissement, le travail qui doit se fait par l'enseignement. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Moi j'ai posé les fondements comme un architecte. J'ai fait ce que j'avais à faire. » Mais il reconnaît que même les fondements qui étaient liés à l'enseignement de Jésus-Christ ne devaient pas s'arrêter là. Parce qu'il disait que d'autres viendront bâtir. Bâtir quoi? Bâtir l'œuvre. Comment bâtir l'œuvre? Avec l'enseignement qui va faire de nous des hommes faits. Nous prenons Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Les disciples dirent l'un à l'autre, lorsque ils s'appellent pour venir, pour présenter le Seigneur Jésus, ils disent, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé, celui de qui les prophètes ont parlé. Nous pouvons comprendre derrière cette parole-là que les disciples étaient dans une attente. Ils étaient dans une attente. Ils avaient soif de voir la promesse de Dieu être accomplie. À tel point qu'ils ont dit, nous l'avons trouvé. Nous l'avons enfin trouvé, celui qu'on attendait. Celui que les prophètes ont annoncé des siècles avant. Voici, il est là maintenant. Mais cette foi qu'ils avaient en la promesse du Seigneur ne faisait pas d'eux des disciples prêts à entrer dans la moisson de Dieu, à être des ouvriers du Seigneur. Ils avaient foi, ils avaient l'assurance dans les promesses du Seigneur de l'Ancien Testament. Mais cette connaissance qu'ils avaient était limitée. Parce que l'Ancien Testament, on nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que l'Ancien Testament était une vérité partielle. La véritable vérité venait avec l'enseignement de Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur a appelé ses premiers disciples, il est resté 3 ans avec eux. Pendant 3 ans, ils ont été enseignés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans l'attente des promesses du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils se sont réjouis de voir que Christ était là, que ça faisait d'eux des soldats et de véritables disciples prêts à entrer dans la moisson du Seigneur. Loin de là, le Seigneur est resté 3 ans avec eux. Quand nous, bien-aimés, nous disons que nous avons passé 3 ans ensemble, ça fait 3 ans que nous nous connaissons. Mais les 3 ans que moi, je te connais, mais on ne s'est pas réveillé tous les matins ensemble. On n'a pas mangé tous les midis ensemble. On n'a pas bu le thé tous les jours ensemble. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, mais c'est peut-être simplement au rythme de l'Église, à raison de 2 ou 3 fois par semaine où nous nous sommes vus. Mais Jésus-Christ a passé 3 ans, jour et nuit, avec ses disciples. 3 ans pour les enseigner, jour et nuit, pour qu'ils soient disposés, prêts à désormais entrer dans la moisson. Et ce n'est qu'après ces 3 ans, après le sacrifice de Jésus, qu'il a dit, allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, ce n'est pas uniquement celui qui croit. Un disciple, c'est celui qui est prêt à faire le même travail que le maître. Donc, il ne suffit pas de dire « j'ai évangélisé ». Il s'est converti pour dire que le travail a été fait. Ce n'est pas ça l'ordre qu'on a reçu du Seigneur. On a reçu pour ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Comment faire un disciple uniquement en convertissant une personne d'un jour? Est-ce que parce qu'il est converti aujourd'hui qu'il est prêt à aller dans la moisson? Il est prêt à gérer un troupeau de personnes? Loin de là. Il faut faire de lui un disciple. Comment faire un disciple s'il n'y a pas d'enseignement? Il a la foi, mais il a besoin de l'enseignement pour devenir un véritable disciple. C'est ce que le Seigneur a fait avec les apôtres. 3 ans qu'il a passé avec ses disciples à les enseigner, à les former. Et c'est après ces 3 ans-là qu'il leur a dit, allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples. Je vous ai enseigné, je vous ai tout dit. Vous êtes désormais prêts à aller et à travailler. Mais ce travail-là, il a fallu qu'il soit d'abord enseigné. Et si nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples, ça ne passe pas uniquement par la conversion. La conversion est le départ. Mais le disciple a besoin d'être enseigné pour être capable de faire le même travail que le maître. C'est ça l'objectif du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu peux être converti depuis 30 ans. Mais tu méprises l'enseignement. Tu penses que peut-être tu connais plus que des aînés dans la foi. Tu peux penser même que tu connais plus que ton pasteur. Il y a des gens comme ça. Ils pensent qu'ils connaissent autant parce qu'il a lu beaucoup de livres. Il s'est constitué une bibliothèque à la maison et il pense que c'est ça qui est suffisant. Éphésiens 4:11. Dieu a établi pour l'Église des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs pour ton perfectionnement. Le nombre de quantités de livres que tu as lus ne fera jamais de toi un disciple prêt à faire tout ce que le Seigneur te demandera de faire. Loin de là. Loin de là. Nous devons revenir aux principes bibliques. Accepter que le fonctionnement du Seigneur a été établi de cette manière pour notre bien et pour faire de nous des disciples. Jean chapitre 3. Jean 3 verset 1er. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Autrement dit, toi qui es docteur, tu as reçu la connaissance, tu as reçu l'autorité pour enseigner les autres. Ce qui est difficile dans la loi, Dieu t'a donné à toi la capacité de pouvoir l'expliquer de façon simple aux autres. Toi qui as reçu cette part, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mais tu devrais le comprendre. Tu devrais comprendre ce que j'explique là. Nicodème était certainement bien disposé. Il avait une connaissance, sa connaissance à lui. Mais il était bloqué à un certain niveau. La connaissance, bien aimée, elle n'est pas que littéraire. Tu peux connaître beaucoup plus de versets qu'un responsable de l'Église. Tu peux te rappeler de tel chapitre, de telle histoire, plus que quelqu'un qui prêche même la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu connais les choses sur le point de vue historique que ça fait de toi un disciple prêt qui a compris le message spirituel qu'il y a derrière cet enseignement. Parce que l'enseignement, ce n'est pas l'école de droit où tu emmagasines beaucoup de lois par cœur. Ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc derrière l'enseignement, il y a la volonté de transmettre une connaissance spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui font la théorie, les gens qui font l'archéologue, mais qui connaissent l'histoire de la Bible, qu'ils connaissent les versets, plus que certains chrétiens. Mais ça ne fait pas d'eux des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent la Bible qu'ils sont serviteurs de Dieu. Même le diable connaît la Bible. Les démons connaissent la Bible. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont serviteurs du Seigneur ? Loin de là, la connaissance dont il est question, ce n'est pas d'emmagasiner le par cœur et d'être capable de le mettre sur la table. Mais il faut comprendre le sens spirituel. Et voilà ce que Nicodème n'avait pas compris. Il avait peut-être un zèle pour ça, mais il lui manquait l'enseignement du Seigneur. Il lui manquait l'enseignement. Il n'avait pas tout saisi. Mais cet enseignement qui vient du Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur n'est plus présent physiquement. Alors il a donné des dons à des hommes, afin qu'ils soient des canaux pour ton enseignement à toi, pour notre enseignement. Tu peux connaître des versets par cœur, il n'y a pas de problème. Tu peux connaître la loi comme Paul la connaissait, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas suffisant pour faire de toi un véritable disciple. La foi que tu as, l'amour que tu as pour la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant si tout cela n'est pas soutenu par l'enseignement. L'enseignement donne un sens à ta foi. Lorsque tu es enseigné, tu comprends désormais pourquoi tu as cru en Dieu. Tu comprends désormais véritablement pourquoi le Seigneur a accompli telle ou telle chose dans ta vie. Lorsque tu as l'enseignement, alors ta foi devient active. Parce que tu peux avoir la foi. Mais cette foi sans enseignement, elle va produire quelle œuvre ? Il y a certaines œuvres qui peuvent être conduites par le Saint-Esprit. C'est la vérité. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'enseignement, tu vas mettre en pratique quoi ? Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique ? Tu vas mettre en pratique d'une certaine manière selon ce que toi tu penses être juste. Mais ce que toi tu penses être juste n'est pas forcément la réalité de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont zélés. Quand vous allez dans des pays comme en Afrique, mais les gens sont des champions du jeûne. Les gens jeûnent sérieusement. Ils peuvent prier, organiser des temps de prière du matin jusqu'au soir. Mais ils sont dans le concubinage. Ils sont dans le mensonge. Ils pensent que prier du matin au soir et jeûner, c'est ça qui attire le Seigneur, parce qu'ils ne sont pas du tout enseignés. Dans Ésaïe 58, le Seigneur reprend son peuple. Il dit, vous venez devant moi et vous demandez, comme un peuple qui aurait fait ma volonté. Vous jeûnez, vous vous privez de manger, mais à côté de ça, vous vous querellez. À côté de ça, vous avez une vie qui n'est pas conforme à mon enseignement. À quoi ça sert de jeûner ? Il dit, c'est un jour où vous êtes censé vous humilier. Il dit, non, je ne prends pas plaisir à ce genre de jeûne. Là, tu es en train de faire la grève de la faim, ça ne sert à rien. Ça, c'est la grève de la faim. Le Seigneur dit, voilà le jeûne auquel moi je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Donne ta subsistance pour celui qui mange du pain. Voilà ce que moi j'attends du véritable jeûne. Le jeûne n'est pas simplement le fait de se priver de manger. Le jeûne, c'est un état d'esprit. Le jeûne, c'est un élan du cœur à vouloir vraiment élever le Seigneur et se considérer comme petit. Quand le Seigneur dit à ses disciples qui ont tenté de délivrer un homme, ils n'ont pas pu atteindre un esprit lunatique. Et le maître vient et dit, le père vient et dit, mais tes disciples ont essayé et n'ont pas réussi. Le Seigneur leur dit, mais il y a des jeûnes qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais le jeûne et la prière dont il est question, lorsque nous voyons l'ensemble des Écritures, ne se limite pas à s'abstenir de manger. C'est une façon de vivre. Le jeûne, c'est un état d'humilité permanent et chaque jour. Parce que tu ne sais pas aujourd'hui quel cas tu vas rencontrer. Un serviteur de Dieu n'est pas serviteur juste le jour où il a pris rendez-vous, où il sait qu'il y a un démon à chasser, il prend rendez-vous et puis il prévoit de jeûner ce jour-là. Le Seigneur à tout moment peut t'envoyer des personnes pour lesquelles tu dois prier. Tu vas dire quoi? Reviens demain parce que je n'ai pas jeûné aujourd'hui? Non, c'est un état d'esprit. C'est un état de s'humilier. Mais si tu penses qu'il suffit simplement de croire en Dieu et que tu refuses de recevoir cet enseignement qui t'explique ces choses-là, c'est normal que tu rencontres tout le temps des murs. C'est normal que tu aies le sentiment que les portes te restent fermées parce que tu as méprisé l'enseignement. S'il suffisait uniquement, bien-aimé, d'avoir la foi en Dieu, alors pourquoi le Seigneur nous donne la Bible finalement? S'il suffit simplement de croire en Dieu, donc pourquoi la Bible? À quoi ça sert? Dans ce cas, nous fermons nos Bibles, nous les jetons, puisque la foi suffit, j'ai plus besoin de Bible. Mais s'il y a la Bible, c'est parce que la foi seule ne suffit pas. Cette foi a besoin d'être soutenue, a besoin d'être fortifiée par la Bible et l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça la réalité. Mépriser cela ne fera pas de nous des disciples. Nicodème était censé connaître. Il connaissait beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il connaissait, ce passage nous montre que ça restait tout simplement théorique. Il n'était pas enseigné. Lui, docteur de la loi, qui était censé connaître ces choses-là, il avait besoin de l'enseignement du Seigneur afin d'entrer véritablement, que sa connaissance et que sa foi prennent véritablement un sens. Il fallait qu'il s'humilie et qu'il accepte l'enseignement du Seigneur. Actes, chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Un homme éthiopien qui s'en retournait de Jérusalem. Il était venu pour adorer. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est quoi? L'adoration est liée à Dieu lui-même. La différence entre adoration et la louange. On loue le Seigneur pour tout ce qu'il fait. La louange est exprimée en fonction de ce que Dieu fait, de tout ce qui émane du Seigneur. Mais l'adoration est liée à la personnalité de Dieu. L'adoration est liée à la personne de Dieu. On peut aujourd'hui, d'une certaine manière, louer les exploits que la science peut faire. On peut louer les exploits qu'un homme peut faire. Mais si nous disons que nous adorons un homme, là nous sommes dans l'idolâtrie. Parce que l'adoration est réservée à Dieu. Ça veut dire à sa personne. Donc, pour adorer le Seigneur, mais il faut le connaître. Alors, cet homme s'est rendu à Jérusalem pour adorer. Il a fait les choses sincèrement, certainement de tout son cœur. Mais il est reparti sans réellement connaître ce Dieu-là qu'il était venu adorer. Et ça, le Seigneur ne peut pas s'en contenter. Il ne peut pas laisser et voir que quelqu'un qui a des dispositions pour lui reste, je dirais, insatisfait. Qui a des dispositions pour servir le Seigneur et n'entre pas dans son plan, n'entre pas dans son projet. Le Seigneur, lorsqu'il voit la disposition de cœur de quelqu'un qui est prêt à tout consacrer, à tout donner, le Seigneur fera en sorte de le mettre dans les conditions les meilleures pour qu'il entre véritablement dans son projet. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Donc si il estime que ton cœur est disposé à faire sa volonté, il va réunir toutes les conditions nécessaires pour te mettre dans les conditions où tu seras là où il veut que tu sois, que tu demeures dans la vérité et que tu le serves. Alors le Seigneur, voyant la disposition de cet homme, le Seigneur a dit, je ne peux pas le laisser comme ça. J'ai établi des serviteurs. Il lui manque quelque chose. Cet homme m'aime, mais il ne comprend pas vraiment tout ce qu'il est en train de faire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et beaucoup de chrétiens quelquefois font, mais ils ne savent pas pourquoi ils font. Il fait parce que le pasteur a dit de faire. Il fait parce qu'on l'a enseigné de faire. Le Seigneur, ça ne lui convient pas. Aujourd'hui, nous enseignons nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Mais si cela suffisait, alors ça ne nécessitait pas que les enfants un jour fassent un choix. Mais si le Seigneur veut que nos enfants un jour soient confrontés à faire personnellement le choix, c'est que ce qu'ils ont reçu de la part de quelqu'un d'autre, qui est une base, qui est une semence, ne s'arrête pas là. Il faut qu'à un moment donné, la personne fasse un choix délibéré, de dire « j'ai reçu un enseignement, mais aujourd'hui c'est moi qui m'engage avec le Seigneur. C'est moi qui fais le choix de marcher avec le Seigneur. » La Bible nous dit que le baptême est un engagement de bonne conscience. Celui qui s'engage dans l'eau du baptême, c'est parce qu'il a compris. Mais pour entrer dans les eaux du baptême, mais il faut d'abord recevoir l'enseignement qui t'explique pourquoi tu entres dans les eaux du baptême, qui t'explique ce que représente l'eau du baptême. Et on baptise des enfants. Et quand ils arrivent à l'âge adulte, comme je l'ai déjà témoigné, j'ai posé la question un jour à ma mère, « Pourquoi tu as baptisé mes petits frères ?» Elle m'a répondu avec un sourire, parce qu'elle ne pouvait pas me répondre. J'ai dit, « Tu as fait une cérémonie que toi-même tu n'en comprends même pas le sens. » Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Vous pensez que les gens qui baptisent leurs enfants, qui demandent des messes quand il y a des morts dans leur famille, certains le font en pensant vraiment faire ce qui est agréable à Dieu. Certains le font en étant sûrs qu'ils sont dans la vérité. Parce que leur cœur sincère leur font croire que non, c'est bien ce que tu fais. Mais n'ayant pas l'enseignement, ils sont totalement à côté. Ils sont totalement à côté. Et le Seigneur ne voulait pas que cet homme-là reparte chez lui sans avoir été enseigné. Ainsi, lorsqu'il est reparti désormais, il a compris pourquoi il était venu à Jérusalem. Il a compris maintenant pourquoi il était venu adorer le Seigneur. Et désormais, son adoration est quelque chose qui a un véritable sens. Quand on est enseigné et que le Seigneur nous explique certaines réalités, alors on sait pourquoi on sert le Seigneur. On sait pourquoi on consacre notre vie. On sait pourquoi on œuvre pour faire de toutes les nations des disciples. Parce qu'on a compris cet enseignement. La foi que nous avions a pris véritablement un sens avec l'enseignement tel que ça a été le cas pour cet homme qui lisait la parole de Dieu mais qui ne comprenait pas. Et on lui pose la question, est-ce que tu comprends? Il dit, comment je vais comprendre si personne ne me l'explique? Comment je vais le comprendre? Donc inconsciemment, il est en train de dire, certainement Dieu a établi des gens pour expliquer ça, mais je n'en ai pas encore rencontré un. Est-ce que toi, tu peux me l'expliquer? Oui, parce que Philippe avait été établi pour ça, pour aller et de faire de toutes les nations des disciples, pour donner l'enseignement afin que les gens comprennent le véritable sens de l'œuvre de la croix. L'enseignement soutient notre foi. Ta foi seule, bien-aimé, ne te sauvera pas au jour de la détresse. La foi marche avec l'enseignement. C'est un tout. Dans la marche avec le Seigneur, on ne peut pas choisir de faire les choses selon notre emploi du temps. Le Seigneur nous a donné un tout pour faire de nous des disciples. Il t'a donné la foi, gloire à Dieu. Il a permis que la parole écrite te soit parvenue, gloire à Dieu. Mais il a institué l'Église. Il a établi des serviteurs. Il a donné à l'Église des dons pour l'utilité commune. Toutes ces choses-là font partie du pacte dans lequel le salut, dans lequel il y a toutes ces choses-là pour notre édification, pour notre perfectionnement, pour nous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ. On a besoin de tous ces éléments. Alors toi, aujourd'hui, qui considères que tu peux vivre ta vie en considérant que tu n'as pas besoin d'autorité, en considérant que tu n'as pas besoin de pasteur, en considérant que les prophètes sont tous des menteurs, alors moi, le ministère prophétique, je ne veux plus en entendre parler. C'est toi qui sors de la Bible. C'est toi qui n'es pas dans la parole de Dieu, si tu penses comme ça. Même si tu as été blessé, le Seigneur dit qu'il s'est réservé des hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Dieu s'est réservé. Il dit dans Jérémie 3,15, « Viendra un temps où je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous feront paître selon mon cœur. » Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux que cela veut dire qu'il n'y a pas de vrai. Si aujourd'hui dans le monde, nous parlons de falsification, il y a des gens qui falsifient des papiers, d'autres falsifient les marques, les sacs à main, toutes ces choses-là. Mais si on parle de falsification, c'est parce qu'il y a un modèle authentique. Donc, il y a un modèle authentique aussi de serviteurs qui n'ont pas fléchi les genoux. C'est à toi de prier afin que le Seigneur t'oriente. Où est l'autorité spirituelle qu'il a prévue pour toi? C'est à toi de prier et de t'humilier, de chercher le Seigneur afin qu'il t'oriente pour que tu demeures là où il veut que tu sois. Et si tu estimes avoir trouvé la place, soumets-toi, non pas à un homme, mais soumets-toi au schéma que le Seigneur a établi de son propre chef. Alléluia. Chapitre 9, toujours Actes. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà une réalité que l'homme n'aime pas. C'est qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Lorsqu'il l'estime être assez intelligent, lorsqu'il estime connaître assez, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, surtout lorsque l'ordre vient d'un plus jeune que lui, il a du mal, il grince des dents, ça lui fait mal au-dedans de lui. Le Seigneur dit à Paul, entre dans la ville, on te dira ce que tu as à faire. Il y a des gens qui ne veulent avoir affaire qu'à Dieu seul. Il faut que Dieu lui parle en songe, il faut que Dieu lui parle en vision. Il n'accepte pas que Dieu passe par un frère, par une sœur, par un responsable, pour lui dire ce qu'il doit faire. Lui, il faut que, je ne sais pas, on se prend des fois pour Moïse, hein, comme Moïse parlait face à face, donc on veut aussi, Dieu me parle à moi, moi, Dieu m'a dit ce que je dois faire. Dieu a établi dans l'Église pour toi des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, pour ton perfectionnement. Alors le schéma dans lequel le Seigneur veut te parler, Dieu ne va pas se substituer parce que tu veux qu'il te parle en songe. Tu vas attendre longtemps. Et c'est la raison peut-être pour laquelle ça fait longtemps que tu attends une réponse, tu ne l'as pas. Parce que tu estimes que toi, tu dois avoir un rapport privilégié avec Dieu et que passer par des hommes, Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'apôtre Paul, il dit, j'ai tous les arguments pour me glorifier en tant qu'homme. Si je dois me glorifier par rapport à la chair, je le peux plus que vous tous. Moi, je suis pharisien, de la tribu de Benjamin. La connaissance, je l'ai, enseignée par le grand Gamaliel. J'ai toutes ces choses-là. La loi, je la connais. Lorsqu'on lit l'épître des Hébreux, on voit comment l'apôtre Paul maîtrisait la loi. Il parle du Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. Il a compris l'Ancien Testament qui était caché dans l'Ancien Testament. Et il explique ça d'une façon très claire. Même s'il y a des choses qui sont compliquées, mais il montre clairement qu'il maîtrisait la loi. La connaissance, il l'avait. Et lorsqu'il persécutait les chrétiens, il était certain d'être dans la vérité. Il était certain que ces gens-là sont en train de blasphémer contre le Seigneur. Il était certain que la voie que les chrétiens avaient prise était contre la parole de Dieu. Alors il avait décidé de faire justice. Et il le faisait avec le feu, avec le zèle. Zélé pour la parole, comme il le dit lui-même. Mais malgré toute cette connaissance, il était totalement à côté de la réalité. Il était totalement à côté de la vérité. Les dispositions de cœur chez lui l'empêchaient de connaître cette vérité. Ça nous emmène à comprendre, oui, que le Seigneur véritablement résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais le Seigneur qui connaissait le cœur de Paul savait aussi que les agissements de Paul n'étaient pas liés parce qu'il avait un cœur méchant, parce qu'il se rebellait contre Dieu. Il pensait véritablement être dans la vérité. Et le Seigneur a vu son cœur. C'est pourquoi lorsqu'il l'a rencontré, il lui a fait comprendre, arrête de résister, ne résiste pas. Et effectivement, Paul n'a pas résisté. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, on va t'enseigner là-bas. À partir de là, tu vas comprendre maintenant comment me servir. Entre dans la ville, il y a des gens qui ont reçu l'enseignement avant toi. Ce sont eux qui vont t'enseigner et te montrer la voie. Entre seulement dans la ville et accepte de te faire petit. Tu connais beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Tu étais un homme réputé à qui on a donné un pouvoir. Mais entre dans la ville, il y a des petits chrétiens là-bas qui vont s'occuper de toi. Ceux peut-être à qui tu pouvais enseigner la loi, mais eux vont t'enseigner la véritable parole parce qu'ils l'ont compris. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est entré dans son appel. Il avait le zèle pour Dieu, il avait l'amour pour le Seigneur, mais il n'avait pas compris véritablement les choses. Son enseignement était théorique, sa connaissance était théorique. Et il a fallu qu'il soit enseigné pour comprendre véritablement le sens de l'œuvre de la croix et surtout qu'il comprenne véritablement le sens de l'Ancien Testament, qui n'était qu'une préparation pour l'évangile du Seigneur. Mais il a fallu pour ça qu'il soit enseigné. Son zèle et sa foi ne suffisaient pas pour entrer véritablement dans l'appel de Dieu. Bien-aimés, humilions-nous. On ne s'humilie pas devant un système. On ne s'humilie pas devant un homme. On s'humilie devant la parole de Dieu. Et puisque nous avons la foi au Seigneur, mais ayant foi que le Seigneur ne s'est pas trompé dans sa parole, ayant foi que Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il te dit que tu as besoin d'être suivi par un berger, pourquoi croire uniquement que Dieu a créé le ciel et la terre et lorsqu'on te dit de croire que Dieu a placé des hommes pour te conduire, tu dis non, ça je ne crois pas. Tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont des faux, il n'y a que des faux, il n'y a que des faux, il n'y a que des faux. Ça devient maintenant l'excuse pour justifier le fait que tu vives ta vie de chrétien indépendant. Que tu fasses comme un frère disait, ton propre menu, en allant sur internet piocher un peu des enseignements de gauche à droite, de droite à gauche, du milieu en haut, de haut en bas, je ne sais pas comment, dans tous les sens. Tu te fais ton propre menu et après tu sors, tu dis je connais. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, bien-aimé. Parce que si tu connaissais, Dieu t'utiliserait plus que qui t'utilise actuellement. Je ne connais pas aussi. Parce que si je connaissais beaucoup, Dieu m'utiliserait plus qu'il m'utilise maintenant. Alors nous allons continuer d'apprendre jusqu'au retour du Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle pour certains. C'est que je te dis ce matin que tu n'atteindras jamais le niveau de connaissance. L'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie, mais on connaîtra tout lorsque tout sera parfait. La perfection n'est pas encore atteinte sur la terre. On travaille, on cherche ça. Mais il dit, on connaîtra tout lorsqu'on sera au ciel. Alors, tu peux continuer. C'est vrai, à aller à la bibliothèque, prendre l'abonnement, fouiller un peu l'archéologie, regarder, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont tes pistes, quelles sont tes quels diplômes tu cherches, comme certains font faire des écoles bibliques ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais en soi, mais l'école biblique ne fera jamais de toi un pasteur. L'école biblique ne fera jamais de toi un prophète. Jamais de la vie. C'est le Seigneur qui consacre ses serviteurs. Et pour exercer ces ministères-là, il faut avoir le don qu'il va avec. Il y a des gens qui sont sortis. On leur dit pasteur stagiaire. Et des fois, ils ont même le badge. C'est écrit pasteur stagiaire. J'ai connu ça. Pasteur stagiaire. Donc, il est en stage. Mais tu peux être pasteur stagiaire. Après, passer pasteur supérieur. Je ne sais pas quels sont les grades après. Mais si tu n'as pas le don de Dieu, tu ne feras rien. Tu ne feras rien de bon selon le Seigneur. En fait, quand les choses se passent comme ça, tu deviens en fait une assistante sociale. Voilà. C'est comme ceux qui font des études, qui ont une certaine connaissance, qui ont fait un peu la psychologie de l'humain, qui ont étudié un peu le comportement humain, qui savent que quand l'humain est comme ça, il faut faire telle chose. On te donne certaines techniques, comme un peu ceux qui ont travaillé dans le travail social. On t'apprend que voilà, lorsqu'on gère des conflits, ceux qui font peut-être moniteur éducateur, on te dit lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, lorsque tu sens que ce n'est pas ça, tu dois laisser pour que ton collègue vienne prendre la relève. Comme le conflit n'est pas directement avec lui, lui va compenser. Ce sont des techniques. Et les gens pensent que ce qu'il a appris sur le cahier, il arrive et il peut maintenant gérer une église. C'est un appel. Si c'était une question de diplôme pour servir le Seigneur, alors tous les apôtres ont échoué. Ils ont tous échoué parce que beaucoup n'ont même pas été à l'école. Ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. C'est Dieu qui appelle. N'inventons pas une nouvelle église. N'inventons pas un nouveau schéma pour dire que les choses doivent se passer comme ça. Cherchons à nous rapprocher le plus possible de ce qui est écrit. Il y a des choses, c'est vrai, qui sont comme des mystères pour nous. Mais l'essentiel, le nécessaire pour vivre une vie selon le plan de Dieu, nous l'avons dans les Écritures. Et comme j'aime dire, il y a des choses qui peuvent être compliquées dans les Écritures. Apocalypse, c'est compliqué de tout comprendre. Le livre de Daniel, les prophéties de Daniel, c'est difficile de tout comprendre. Mais l'évangile de Jésus, en ce qui concerne l'organisation de l'Église, en ce qui concerne la parole qui est propre à ton salut, un enfant de 12 ans le lit et il comprend très bien. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Ça conditionne ton salut. Est-ce que ça, tu ne le comprends pas? Tu le comprends. Dieu dit qu'il a établi des pasteurs pour ton perfectionnement. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Tu le comprends. Tu le comprends. Maintenant, si je te parle du serpent, du dragon, à tel ton de tête, ça représente tel royaume, là, ça va demander peut-être de longues, longues explications. Mais comprendre que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça, tu le comprends. Parce que ça conditionne ton salut. Tout ce qui est propre à notre salut, c'est simple. Et tout ce qui concerne le fonctionnement de Jésus-Christ, en ce qui concerne l'Église, c'est très simple aussi. Il a établi des hommes pour ton perfectionnement, mais lui reste la tête de l'Église. C'est lui qui est le chef. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On le comprend. Donc, ce n'est pas parce que demain Dieu va t'utiliser que tu mets Jésus au second plan et que tu deviens le chef. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il reste à ta place d'être un canal. Il respecte les procédures. Il respecte le plan de Dieu. Et c'est comme ça que l'Église doit fonctionner, selon le modèle établi par le Seigneur. Nous prenons acte 10. Acte chapitre 10. Nous allons lire acte 10. Acte 10. Nous allons lire à partir du verset 34. Je résume le contexte. Il y a un homme qu'on appelle Corneille, qui était un chef romain, chef d'une armée. La Bible nous dit que cet homme était pieux. Donc cet homme croyait en Dieu. Et il faisait en sorte que sa vie soit conforme en tout cas à ce qu'il pouvait connaître du Seigneur. Et le Seigneur va lui parler en vision pour l'emmener à rencontrer l'apôtre Pierre. Et en même temps, le Seigneur se révèle aussi à l'apôtre Pierre par un songe dans lequel il lui montre que « Ne considère pas impur ce que moi je déclare pur, puisque les païens, selon l'enseignement que les Juifs avaient à l'époque, ne pouvaient pas hériter du salut de l'Éternel. Il est regardé comme des gens impurs. » Maintenant, le Seigneur d'un côté va parler à Corneille et d'un côté va parler à Pierre et il va faire en sorte que les deux se rencontrent. Verset 34. « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins, choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Reçoit par le nom de Jésus le pardon des péchés. Corneille était un homme pieux. Il avait une certaine connaissance de Dieu qui l'emmenait à avoir une vie dans laquelle il s'efforçait en tout cas d'être propre aux yeux du Seigneur. Mais Corneille n'avait pas la révélation et l'explication véritable de ce que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire. Alors lorsque le Seigneur parle à son serviteur Pierre, c'est pour qu'il ait tout simplement enseigné Corneille et que la foi que Corneille avait en Dieu prenne un véritable sens en connaissant l'œuvre de la croix, en ayant une explication claire de ce que venait de se passer en Israël par Jésus-Christ. Donc il ne voulait pas que Corneille reste limité dans la relation qu'il avait avec lui. Il fallait que sa relation ait un sens, et ce sens-là, eh bien, passait tout simplement par le nom de Jésus. Ce qu'il devait ignorer, c'est ce que l'apôtre Pierre, mis à part par le Seigneur, choisi du Seigneur pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Il fallait qu'il transmette cet enseignement, qu'il explique ces choses-là à Corneille pour que la foi de Corneille ait un véritable sens dans sa façon de vivre, qu'il connaisse le but et l'objectif de Dieu à travers le choix qu'il avait même fait de croire en ce Dieu-là. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin d'être enseignés. Maintenant, je veux dire un point. L'enseignement n'est pas qu'une question, je dirais, de grande connaissance. Quand le Seigneur parle à ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai tout dit. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai tout dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur n'a rien caché à ses disciples qui était utile à ce moment-là pour qu'il fasse sa volonté. Ça veut dire que ce que tu connais aujourd'hui, même si ça peut paraître peu par rapport à quelqu'un qui a été converti avant, qui a été enseigné avant, mais ce que tu connais aujourd'hui est nécessaire pour faire ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas forcément par la grande quantité. C'est vrai, tout à l'heure, en parlant, j'ai dit que on ne peut pas être de véritables disciples. Je veux parler de disciples accomplis, pour accomplir vraiment ce que le Seigneur attend de nous dans l'appel qu'il a mis particulièrement dans la vie de chacun. Mais le peu de connaissances que tu as, même si ça ne te donne pas toutes les capacités pour gérer une église, mais c'est assez pour enseigner tes enfants. C'est assez pour enseigner tes voisins qui ne connaissent rien. C'est assez pour enseigner les membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc nous avons un minimum qui nous permet de pouvoir entrer dans le travail à un certain niveau. Maintenant, il y a les principes, les réalités que nous venons de rappeler ce matin, qui est bon pour nous tous. Mais la vie chrétienne, c'est une question de choix de chaque jour. Même après cet enseignement, même après ce partage, tu restes libre dans tes choix et dans tes décisions. C'est un rappel que le Seigneur nous fait, revenant à ce qui est essentiel, revenant à ce qui est biblique. N'inventons pas un autre modèle de l'Église. dans Actes 2, il nous est dit que ceux qui avaient cru, eh bien, se rajoutaient aux autres. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Et la conséquence, on l'a vu aussi derrière. Ne rejetons pas l'enseignement. Soyons disposés à être là où le Seigneur veut, à recevoir ce que nous devons recevoir, en considérant que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est tout simplement la parole du Seigneur. Et l'homme n'a été qu'un canal. Comme la Bible nous dit, ce n'est pas par la volonté humaine que les hommes ont prophétisé, loin de là. Mais ils l'ont fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de Dieu. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide. Si il nous est arrivé d'être blessés par des hommes, blessés par des soi-disant serviteurs de Dieu, et que cela nous a mis comme dans une position de retrait, dans une position de méfiance, qui nous emmène finalement à ne pas recevoir tout ce que le Seigneur voudrait qu'on reçoive par ses autorités, que le Seigneur puisse simplement nous consoler de ce passé-là et nous amener vraiment à avoir un cœur disposé, à recevoir ce qui vient de lui, si nous avons jugé que l'homme qui nous enseigne a été aussi appelé par le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons nous humilier, Seigneur de gloire, ce matin auprès de toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que il nous est arrivé quelquefois de rejeter la connaissance, Seigneur, de rejeter l'enseignement. Certains l'ont fait, Seigneur Dieu de gloire, par déception, Seigneur. Ils ont considéré, Seigneur Dieu de gloire, après être déçus que finalement, il n'y avait plus la vérité, Seigneur, qu'il n'y avait plus de véritable serviteur qui soit capable de nous enseigner la vérité. Certains se sont isolés, se sont enfermés dans leur maison, et finalement cela a contribué tout simplement au projet du diable, Seigneur, qui a réussi à couper le lien qui existait entre l'Église, Seigneur de gloire, et beaucoup de chrétiens. Seigneur, ce n'est pas de cette vie que nous voulons, Seigneur. Si nous avons fait le choix de croire en toi, alors nous voulons croire aussi, Seigneur, que tu t'es réservé des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux, que tu t'es réservé des serviteurs, Seigneur Dieu de gloire, qui ne se sont pas corrompus, Seigneur Dieu de gloire, dans l'œcuménisme, Seigneur, qui ne se sont pas corrompus, Seigneur Dieu de gloire, à cause de l'argent, Seigneur, à cause du système de ce monde. Nous voulons croire cela, Seigneur. Seigneur, apporte, Seigneur de gloire, une consolation dans les cœurs, dans le nom de Jésus, afin que notre confiance en toi soit restaurée, Seigneur Dieu de gloire, et que par cette confiance, Seigneur Dieu de gloire, nous soyons disposés à voir et à discerner, Seigneur Dieu de gloire, où sont les vrais serviteurs, où sont les faux serviteurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Ça, c'est vrai, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Nous avons fait beaucoup de choses, Seigneur de gloire, en pensant être dans le vrai. Seigneur, mais nous étions tout simplement à côté de la vérité. C'est pourquoi nous venons nous humilier devant toi et te dire, Seigneur de gloire, que nous acceptons de marcher selon ce que toi tu as établi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous acceptons de nous soumettre, Seigneur, à ce que toi tu as écrit, à la parole que tu nous as transmise, Seigneur. Augmente, Seigneur de gloire, notre foi, Seigneur, afin que nous puissions véritablement marcher selon ce qui est écrit, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Dispose nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, véritablement à faire ta volonté. Alléluia. Nous allons prier aussi. À un certain niveau, nous sommes appelés aussi, même si tout le monde n'est pas appelé à être prophète, évangéliste, docteur ou pasteur, mais à jouer un rôle d'enseignant, peut-être auprès de nos enfants, peut-être auprès des jeunes dans la foi. À un certain niveau, nous pouvons avoir ce rôle d'enseignant. Et nous allons prier afin que le Seigneur nous aide au-delà de l'enseignement, que l'enseignement prenne un véritable sens dans notre vie. Et nous voyons que l'enseignement a pris un sens dans notre vie lorsque nous le pratiquons nous-mêmes. Alors que le Seigneur nous aide à être soumis à ce que nous enseignons aussi aux autres. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous ne voulons pas considérer que ce qui est dit, Seigneur de gloire, est réservé à une certaine catégorie de personnes, Seigneur. Si ce que nous professons, Seigneur de gloire, est issu des Écritures, alors c'est que nous sommes appelés nous-mêmes, Seigneur de gloire, à nous y soumettre, dans le nom de Jésus, car nous sommes des instruments. Ainsi, celui qui prêche, Seigneur, aux autres, en réalité, il se prêche aussi à lui-même. Seigneur, que nous puissions nous souvenir de cette réalité, que la parole, lorsqu'elle sort, l'homme n'est qu'un instrument, et que par conséquent, tu t'adresses aussi à cet homme qui a été l'instrument. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur de gloire, à être aussi des témoins en pratique, Seigneur. Que notre enseignement prenne une véritable valeur, Seigneur de gloire. Que notre enseignement devienne vrai. Seigneur, si nous pouvons dire, éternel Dieu de gloire, que Dieu nous a vraiment aimés. Dieu a dit qu'il nous a aimés. Seigneur, mais il a démontré en donnant Jésus-Christ. Il a pratiqué lui-même cet amour. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur de gloire, à démontrer que nous croyons en ce que nous disons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, soutiens notre foi. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. C'est ta parole, Seigneur Dieu de gloire, qui renforce notre foi, qui nous restaure lorsque la foi est ébranlée, Seigneur. C'est ta parole, c'est ton enseignement, Seigneur de gloire, qui nous ramène à la vie. Seigneur, nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur. Les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, Seigneur. Ils avaient compris l'importance d'être enseignés. Seigneur, aide-nous à marcher dans la soumission à ta parole, ô Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Que ton Esprit Saint, Seigneur de gloire, nous inspire. Que ton Esprit Saint nous soutienne et nous conduise dans toute la vérité. Seigneur, nous venons nous humilier, Seigneur. Nous venons nous humilier, Seigneur de gloire, et nous venons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons rejeté l'enseignement, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Osée, Seigneur de gloire, que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais cette connaissance qui manque, Seigneur, n'est pas une connaissance qui a été cachée, Seigneur. Parce que tu dis, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Donc le peuple, Seigneur de gloire, n'a pas la connaissance parce qu'il la rejette, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu l'as cachée, mais c'est parce qu'il la rejette. Nous ne voulons plus rejeter, Seigneur de gloire, tes enseignements. Hallelujah.